France Musique. La Dame aux Camélias. Elle était grande, très mince, noire de cheveux, rose et blanche de visage. Elle avait la tête petite, de longs yeux d'émail comme une japonaise, mais vifs et fins, les lèvres du rouge des cerises, les plus belles dents du monde. On eût dit une figurine de Saxe. Alexandre Dumas fait la connaissance de Marie Duplessis en 1844. Ils ont tous les deux 20 ans. Elle est sans doute la toute première grande courtisane du 19e siècle, incarnant l'idéal féminin de la génération romantique. Une femme belle, élancée, diaphane, mystérieuse et d'apparence fragile. Lui, il est le fils d'Alexandre Dumas et de sa voisine de palier, Catherine Laure Labbé. Très tôt placé en pension, ce n'est qu'à l'âge de 7 ans qu'il est reconnu par son père. Il gardera toute sa vie un profond ressentiment envers lui. Rose Alphonsine Plessis naît dans une famille malheureuse de paysans normands au bord de la misère. Son père, un colporteur alcoolique du nom de Marin Plessis, bat sa mère, qui meurt lorsque Alphonsine a 7 ans. Abandonnée un an plus tard chez des parents charitables, elle devient blanchisseuse apprentie. Lorsqu'elle a 14 ans, son père refait surface et la vend à un homme septuagénaire avec la réputation détestable de débaucheur. Puis Marin Plessis l'emmène à Paris, où selon l'une des légendes, il la perd, la laissant se débrouiller seule dans une métropole hostile. Alphonsine travaille alors dans une blanchisserie, puis chez un tailleur. Mais il est impossible pour les jeunes filles de l'époque de survivre avec un salaire moyen de 22 francs par mois pour 13 heures par jour, 6 jours par semaine de travail. Aussi, lorsqu'un restaurateur du Palais Royal la remarque et lui propose de la mettre, je cite, « dans ses meubles », Alphonsine n'hésite pas. Un appartement à elle situé rue de l'Arcade, 3000 francs pour couvrir ses dépenses, jupes et jupons, rubans et chapeaux, un collier de perles, sa nouvelle vie est lancée. Son protecteur vient la voir le dimanche. Elle supporte stoïquement ses rapprochements poussifs, en songeant à l'argent qu'elle dépensera le lendemain. Il lui brûle déjà les doigts. Mais elle n'a que 16 ans et elle s'ennuie. Elle brûle de pénétrer au bal du Prado, ancien théâtre de la cité, situé entre le quai aux fleurs et la vieille rue Constantine, absorbée depuis par l'Hôtel Dieu. Dans la salle dite de la Rotonde, les élégantes promènent leur robe du soir, chapeau de velours et manteau d'hermine. C'est là qu'on peut admirer les modes les plus nouvelles et les plus riches bijoux. C'est le monde auquel Alphonsine aspire. Rien n'est refusé à la protégée de Monsieur Prudhomme. Gonflée du plaisir de présenter à la foule ce petit miracle de beauté, sa propriété, ils entrent au Prado un lundi. Monte l'escalier qui conduit au salon de danse, le plus grand pourrait s'appeler boulevard. On y circule avant et après avoir dansé. On y échange des saluts quand on se connaît et des œillades quand on veut se faire connaître. On bavarde, on rit, c'est un terrible brouhaha. Dans l'une de ses robes blanches qu'elle privilégie, Alphonsine irradie de fraîcheur. Après avoir traversé le grand salon, toujours au bras de son monsieur Prudhomme, Alphonsine pénètre enfin dans la fameuse rotonde. Elle y côtoie les élégantes qui dansent le traditionnel quadrille, avant de se lancer dans une cachucha peu décente. Alphonsine s'amuse follement. Son protecteur, essoufflé, finit par crier garde et va s'effondrer sur une banquette. Au milieu des rires bruyants et dans l'agitation de ce grand salon, un jeune homme élégant vient s'offrir pour une valse. Ce soir-là, entrée dans la rotonde au bras d'un gargotier, Alphonsine en sort accompagnée d'un aristocrate. Agénor de Guiche est issu d'une des plus anciennes et des plus illustres maisons de la noblesse française. 8 jours plus tard, au Théâtre des Italiens, on ne parle plus que de la nouvelle maîtresse du jeune duc. Agénor de Guiche, futur duc de Gramont, devient dès lors son Pygmalion. Il la transforme en une femme raffinée, surveille son allure et sa toilette, lui fait prendre des cours de français, de dessin, de piano et de danse. Avec lui, elle affronte ce que la capitale compte de gens à la mode, d'aristocrates, de viveurs et d'artistes. Au théâtre des variétés, devant un public disparate, élégant à l'orchestre, chahuteur à partir des secondes loges, on meurt d'envie d'assister à leur entrée. Celle qui devient Marie Duplessis, à la sonorité plus aristocratique et sans artifice. Elle est la quintessence de ce que réclamait la mode de ces années 1840, tant d'une désespérance, d'une lassitude de vivre. Elle est telle que Théophile Gautier la voit. Un peu de pâleur, une toux sèche, un air fatal et byronien gagnant l'apitoiement des plus sensibles. Marie Duplessis est assez fine pour tabler sur cet apitoiement, faisant bientôt le sens même de sa séduction. Modèle idéal pour un Vigny ou un Lamartine, avec son air languide, elle démode en un soir toutes les femmes de la société qui serrent leur corset avec excès. Mais la famille Gramont ne voit pas d'un bon œil cette liaison. Le père d'Agénor intervient pour mettre fin au scandale et Agénor est expédié à l'étranger. Entouré d'hommes politiques et écrivains comme Balzac et Théophile Gautier, qui louent sa culture et son esprit, Marie Duplessis tient salon. Elle reçoit alors ses nombreux soupirants dans son appartement, situé sur l'élégant boulevard de la Madeleine, rempli de meubles du XVIIIe siècle, de peintures, de soieries et de livres. L'un de ses protecteurs, le comte de Stackelberg, âgé de 78 ans, quand elle en a 20, paie ses toilettes et lui donne accès au meilleur théâtre de Paris. C'est ainsi, lors d'une soirée au Théâtre des Variétés, en septembre 1844, que ses yeux croisent ceux d'Alexandre Dumas-fils. Ce dernier vit une vie dissolue pour oublier l'amertume de sa bâtardise. La fiévreuse relation qu'il entame avec Marie l'apaise, mais il met un terme à leur passion en 1846, n'ayant pas les moyens de l'entretenir. Marie est déjà condamnée, atteinte de la tuberculose. Malgré les conseils des médecins, elle mène une vie mondaine active, joue, vit, s'amuse, dépense sans compter. Enfin, c'est le comte Édouard de Perregaux qui l'a conduit au mariage après une première opposition de sa famille. Malheureusement, Marie convoitait seulement son titre pour impressionner Franz Liszt, avec lequel elle entretenait une relation passionnée. Ce dernier refusera toutefois son offre de le suivre dans sa longue tournée de 18 mois, malgré une déclaration enflammée. « Je ne vous dérangerai pas, lui dit-elle. Je dors toute la journée. Et la nuit, vous ferez de moi ce que vous voudrez. » Après le refus de Franz Liszt, Marie se jette dans une consommation de fêtes à outrance. Mais seul le repos total peut guérir la tuberculose. Le séjour à Bougival, où elle habite lors de sa relation avec Dumas-fils, et en miroir, le séjour de Violetta et Alfredo à la campagne, dans l'opéra Traviata de Giuseppe Verdi, sont ainsi vécus comme des moments d'espoir, des parenthèses de bonheur. Le 3 février 1847, Marie meurt dans son appartement de la rue de la Madeleine. Alexandre Dumas-fils, celui que Marie appelait affectueusement Adette, apprend la mort de la courtisane le 10 février 1847. Il est effondré. Un an après la mort de Marie, Dumas publie « La Dame aux Camélias ». Marie Duplessis joue ainsi le rôle de muse et nourrit la création du personnage de Marguerite Gauthier. En souvenir de leur première rencontre, Dumas l'a décrit dans un décor de théâtre. Puis il transforme son roman en une pièce de théâtre, immédiatement couronnée de succès. Les amours impossibles d'une courtisane et d'un jeune homme dans un cadre bourgeois forment l'amer constat des infranchissables barrières sociales. 6 ans plus tard, Verdi écrit son célèbre opéra, La Traviata. Marie Duplessis aimait les roses et les violettes. Alexandre Dumas lui offrit des camélias.
À réécouter sur francemusique.fr.